qui est elle aussi apolitique, l'Institut pour la justice donc.
Ah non, nous justement, nous ne sommes pas apolitiques. C'est-à-dire que l'Institut pour la justice, lui, s'affirme apolitique. Déjà, c'est suspect. Quand quelqu'un dit qu'il est apolitique, c'est suspect d'emblée, parce que ça veut dire qu'au fond, il voudrait ne pas être classé. Bon, souvent, comme disait le philosophe Alain, quand on dit qu'on est apolitique, c'est qu'on est de droite. On peut même dire pour l'Institut pour la justice qu'ils sont très à droite. Idéologiquement, ils se situent, en gros, entre l'UMP et le Front National, très proche de la droite populaire, donc la frange la plus droitière de l'UMP, et à certains écarts, on peut même repérer une filiation idéologique entre cet Institut pour la justice et ce qu'on pourrait appeler la droite américaine. C'est un peu une sorte de Tea Party sécuritaire à la française qui propose l'élection des procureurs, les mêmes droits pour les victimes que pour les mises en cause, alors que par définition, les victimes ne sont pas accusées. Hein, donc ça n'a aucun sens, bien sûr. Donc on joue évidemment sur des sentiments, on diffuse des vidéos éprouvantes qui invitent à s'inscrire dans une démarche politique sans jamais le dire. Et on tape à bras raccourcis, à longueur de journée, sur ces juges qui sont des salauds, qui sont des idéologues, et qui évidemment sont du côté des assassins. Voilà, en gros, le fond de commerce de cet Institut pour la justice. Ce qui, moi, me pose particulièrement problème, c'est qu'il avance masqué. Tantôt, il se présente comme un groupe d'experts, ce qu'il n'est pas. Ce sont des militants qui ont demandé à des experts de venir soutenir leur démarche. Deuxième ambiguïté, il se présente parfois aussi comme un groupe de victimes. Ou de proches de victimes, ou une association de victimes, les représentants, les meilleurs représentants des victimes dans ce pays. Ce qu'ils ne sont pas non plus. C'est-à-dire qu'il y a des associations de victimes, diverses et variées, victimes d'infractions sexuelles par exemple, ou de l'inceste, subventionnées, identifiées, qui représentent les victimes. Donc cet institut ne représente que lui-même, c'est-à-dire en fait une certaine pensée, qui est la pensée sécuritaire et répressive de base. Ça, c'est bien son droit, mais au moins qu'il ne se prétende pas autre chose. Ça, ils ne le veulent pas. Ils ne le veulent pas parce qu'en réalité, ils sont dans une démarche de lobbying, c'est-à-dire d'influence. Donc, il y a aujourd'hui urgence à dévoiler ce que fait cet Institut pour la justice et à mettre en garde les citoyens. Parce que beaucoup de gens ont vu cette vidéo, par exemple, de Joël Sancier, ce père qui a perdu son fils, et n'ont pas nécessairement vu qu'en réalité, ils étaient là face à une demande d'adhésion à des propositions politiques dans le cadre des élections de 2012. On joue sur l'émotion pour entrer dans une démarche politique sans le dire.
Madame, monsieur, je m'appelle Joël Sancier, j'ai 52 ans et 30 ans de police derrière moi. Un de mes enfants, Jérémy, a été tué par un groupe de jeunes alors qu'il rentrait à la maison. Mais le 16 septembre dernier, la justice a décidé de relâcher pour vice de forme le dernier qu'elle détenait encore. Cet individu est pourtant le danger public qui a avoué être l'auteur de multiples coups de couteau sur notre fils. Un coup qui a traversé son cœur. Un coup qui a traversé sa boîte crânienne et d'autres qui l'ont défiguré. Mais la justice l'a libéré pour vice de forme. Quel vice de forme ? C'est pourquoi je vous demande de cliquer sur le bouton ci-dessous pour signer votre pacte 2012. Au nom de mon enfant, de ma famille et de mon pays, je vous dis merci.
Alors Xavier Beuin, vous parlez des réformes que vous portiez, elles ont été compilées dans un pacte, le pacte 2012. Vous avez fait un grand ramdam, un grand raout à la Maison de la Chimie, où certains candidats que nous ne pourrons pas nommer, vu les nains du CSA, sont venus. Certains très importants les ont même signés, ont repris quelques-unes de vos mesures. Est-ce qu'on pourrait brièvement les résumer, ces 5 points globalement?
Oui, mais il y a 3 grands points. Premier point... Droit des victimes, égalité des droits à tous les stades de la procédure entre le mis en cause et la victime, c'est une question d'équité et de rééquilibrage de notre procédure. La victime ne doit pas avoir plus de droits que le mis en cause, mais elle doit en avoir autant.
Mais on ne la juge pas, la victime. L'équité, normalement, c'est par rapport à la loi.
L'équité, c'est qu'il y a 2 personnes qui ont un intérêt profond à ce que la justice soit bien faite. Il y a le mis en cause parce qu'il risque la sanction, il risque la prison, et il y a la victime parce qu'elle a subi l'infraction dans sa chair.
Et après, il y a le reste des citoyens pour que l'ordre se règne.
Vous avez parfaitement raison. Et ensuite, il y a la société dans son ensemble qui est représentée par le parquet. Mais donc, il faut que toutes ces personnes-là aient les mêmes droits. La victime, comme le mis en cause, ont les mêmes droits à faire valoir, les mêmes droits de recours à faire valoir, le même accès au juge à faire valoir, et le parquet, également, évidemment, dans son rôle de protection de la société dans son ensemble, doit aussi avoir les droits qui lui incombent. Mais le parquet ne défend pas la victime, le parquet défend la société dans son ensemble, il faut que la victime puisse avoir ses droits à elle, parce que la décision de justice impactera sa vie entière. Elle a subi